Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo les spaghettis.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette derrière ce micro pour vous accompagner au cours de ces 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé qui débute sur Canal M. C'est le mois de l'histoire des Noirs qui se termine cette fin de semaine qui m'a inspiré le sujet de la deuxième partie de l'émission, c'est-à-dire l'anémie falciforme qui est très méconnue ici en Amérique du Nord et pourtant la maladie génétique la plus répandue dans le monde. Elle touche 50 millions de personnes, principalement dans la population noire, mais pourtant avec les nouvelles réalités, la démographie change ici à Montréal et partout au Québec. La maladie risque d'aller en augmentant. D'ailleurs, les hôpitaux québécois rapportent une augmentation de cas chaque année. Donc, Dr Nancy Robitaille, hématologue au CHU Sainte-Justine, sera là pour nous parler de l'anémie falciforme. D'abord, au Canada, c'est 225 000 personnes qui vivent avec un membre amputé. Au Québec, c'est le CHUM qui rapporte que c'est environ entre 100 et 150 amputations là, chaque année. Ça semble beaucoup. Et pourtant, on pourrait penser que grâce au progrès de la science, au progrès de la médecine, les cas d'amputation seraient plus rares, auraient tendance à diminuer. Est-ce que c'est le cas? Et pourquoi on ampute en 2015? C'est quoi la vie après ce genre d'intervention? Et est-ce que les nouvelles technologies, l'avancement de la technologie, ça facilite la vie des gens amputés? J'en parle avec Daniel Petitclerc, physiothérapeute, et José Dubois, prothésiste à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Bonjour José.
Bonjour.
Merci d'être là. L'amputation, c'est ce que je découvrais à travers la préparation de cette émission. Ça existe depuis des années et des années. Là, on la pratique depuis bien longtemps. J'imagine que ça se fait différemment. Est-ce que ça se fait autant qu'avant?
Moi, je travaille à l'Institut avec la clientèle amputée depuis près de 20 ans et le nombre de clients amputés au Québec n'a pas vraiment changé. Dans les pays industrialisés non plus. La cause principale reste toujours les problèmes vasculaires périphériques.
Ce qui signifie?
Des problèmes de circulation.
Okay. Mm-hmm.
Donc, souvent, c'est les jambes qui vont y passer, étant donné qu'ils sont plus loin du cœur. Les problèmes de circulation sont plus fréquents au niveau des membres inférieurs, là, des jambes. De ces clientèles-là, de problèmes vasculaires, la moitié est diabétique. Donc, mm-hmm. la majorité de nos clients se font amputer à cause du diabète au Québec puis dans la majorité des pays industriels.
Mm-hmm. Et ben le diabète, ça tend à augmenter. Hein. Les chiffres sont très révélateurs. Donc, l'amputation, ben, ça continuera, bien sûr, à se faire. C'est ce que j'entends. Est-ce que... Quand on observe autour de nous, là, on n'a pas l'impression qu'il y a tant de gens que ça qui vivent avec une amputation. Et pourtant, vous venez de le dire, Daniel, c'est encore très fréquent. Est-ce que c'est parce que les prothèses sont tellement ingénieuses maintenant et qu'on s'en rend moins compte?
Est-ce qu'on s'en rend moins compte qu'avant? Sûrement, parce que les prothèses sont de plus en plus belles quand même, mais... Je pense que les patients sont peut-être aussi plus confortables avec ça. Et peut-être qu'ils sont moins... Avant, ils étaient presque cachés dans le garde-robe, les amputés. Maintenant, c'est des gens qui fonctionnent dans la société, qui travaillent, qui ont une vie familiale. Donc, je pense juste qu'on les accepte mieux aussi.
Je reviens avec vous, Daniel. Bon, vous parliez de problèmes de circulation, donc plus loin du cœur. Est-ce que les amputations dans le bas du corps sont plus fréquentes?
Oui, les amputations des jambes sont beaucoup plus fréquentes parce que, comme je vous disais, les causes vasculaires sont la principale cause. Les amputés des bras, c'est plus souvent soit des malformations congénitales, mais majoritairement des accidents de travail ou des accidents de moto, mais souvent des accidents d'usine, dans les fermes, etc. Donc, c'est là que les gens vont perdre leurs bras. C'est une clientèle qui perd leurs bras, c'est beaucoup plus jeune, donc les travailleurs, exactement. Donc, on parle de 35-50 ans, la majorité, tandis que les amputés de membres inférieurs, étant donné que c'est des problèmes dus au diabète, maladie vasculaire qui augmente en vieillissant, c'est une clientèle de 60 ans et plus majoritairement.
Mm-hmm.
On en a toujours qui sont plus jeunes aussi suite à des accidents de moto. Ça peut être dû au cancer aussi de plus en plus, ce que je voyais moins avant. Mais les cas de cancer, les gens survivent, mais peuvent se faire amputer suite à ça. Donc ça, c'est notre clientèle plus jeune.
Mm-hmm.
C'est à peu près 80 % membres inférieurs, 20 % d'amputés, membres supérieurs, la proportion d'amputés.
Perdre un membre, on peut se l'imaginer facilement. C'est un grand, grand deuil, un grand choc également. Est-ce que c'est possible de s'y préparer? Bien sûr, quand ça arrive suite à un accident, c'est assez soudain. Suite à une maladie, on voit venir les choses. Est-ce qu'il y a un encadrement psychologique?
Bien, en fait, je dirais que le deuil, on n'a pas le choix de le faire. Contrairement à d'autres maladies où qui n'est pas visible, c'est très visible. J'ai plus mon pied, il n'est pas là. Mm-hmm. On ne peut pas le cacher, on ne peut pas faire l'autruche. On doit l'affronter directement. Les gens qui ont une maladie vasculaire, qui voient leur pied se détériorer et qui doivent envisager l'amputation, ils ont le temps de s'y préparer. Même il y en a qui choisissent que pour eux, c'est une solution. C'est sûr que le deuil est beaucoup plus facile à vivre. Quand c'est suite à un accident, ma vie est belle et je pars en randonnée de moto et d'une seconde à l'autre, je perds ma jambe. Là, c'est sûr que psychologiquement, c'est beaucoup plus difficile.
On sent plus de colère, je dirais, chez les patients de membres supérieurs qui sont souvent plus des amputés dus à des accidents de travail.
Et plus jeunes, comme
plus
le jeune, disait Daniel.
Oui, c'est ça. Des fois, ils sont dans la force de l'âge, là, ils commencent le travail. Je ne sais pas si c'est une perception, parce que je travaille principalement avec des amputés de membres supérieurs, mais je trouve qu'il y a une colère souvent au début. Là.
Mm-hmm. Est-ce que c'est douloureux? Est-ce qu'on vous rapporte des douleurs? Et ça m'amène à ce mystère-là dont on entend souvent parler, c'est-à-dire les douleurs fantômes. C'est-à-dire que même suite à la perte d'un membre, on peut le sentir, on sent les fourmis, on le sent engourdi.
En fait, oui. Avant d'être amputé, les gens souvent vont avoir beaucoup de douleurs. C'est des problèmes vasculaires, c'est un cancer, ou même si j'ai un accident et on tente de sauver le membre, il peut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de douleurs avant l'amputation. Et quand on décide d'amputer, si l'analgésie n'est pas faite comme il faut, si les gens ne prennent pas d'antidouleur, si la douleur n'est pas prise au sérieux, la douleur peut persister au niveau du cerveau. Donc, les gens, même s'ils n'ont pas leur jambe, la sensation de douleur persiste au niveau du cerveau. Alors, si c'est bien pris et de plus en plus c'est bien fait, là, on en voit de moins en moins des douleurs fantômes qui deviennent dérangeantes. Mm-hmm. Donc, si c'est bien pris avant, si l'analgésie a été bien appliquée avant l'amputation et que tout s'est bien fait durant la chirurgie, donc, il y en a de moins en moins. Par contre, on dit que 80 à 100 des gens vont sentir leur membre fantôme suite à l'amputation. Il y en a plusieurs qui vont le conserver pendant des années, mais il y en a chez qui ça va partir. Si c'est juste une sensation, bien, on vit avec, il faut juste être plus prudent pour vouloir mettre notre pied par terre parce que là, ça peut amener des risques de chute. Par contre, quand c'est douloureux, bien là, on peut agir dessus. Il existe de la médication pour enlever les douleurs fantômes. Il existe différentes thérapies aussi. On utilise entre autres ce qu'on appelle la thérapie miroir. C'est qu'on met un miroir entre les deux jambes. Et là, on regarde notre bonne jambe, qui est encore là, et le reflet dans le miroir pour voir comme si on avait nos deux jambes. Et là, à ce moment-là, on peut activer et l'information que notre cerveau voit, c'est deux jambes saines qui bougent et on a moins de sensations de douleur à ce moment-là.
Est-ce que ça fait partie de la réadaptation?
Oui, on a des salles en thérapie, on le montre aux patients. Il existe aussi de l'hypnose qu'on peut faire avec les psychologues, de la psychothérapie. Donc, il y a, oui, la médication, mais beaucoup d'autres approches qui est faite en réadaptation pour apprendre à vivre avec ces sensations mais ces douleurs fantômes-là aussi.
José et Daniel disaient pas vouloir mettre son pied par terre et ça me fait penser parce que je lisais qu'entre un mauvais pied, un pied qui a été abîmé suite à un accident, quoi que ce soit, la prothèse est souvent préférable. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous devez mentionner parfois à vos usagers?
Il y a des patients qui viennent nous voir avant d'être amputés et puis qui sont vraiment dans ce questionnement-là. Il y a même des médecins des fois aussi qui sont consultés par des orthopédistes. C'est sûr que c'est souvent une solution plus adéquate qu'un pied qui nous fait mal pendant 15 ans, 20 ans, qui n'est pas fonctionnel. Ça peut devenir la solution beaucoup mieux que ce qu'ils vivent au quotidien. Là.
Est-ce que maintenant, avec, bon, je le disais en introduction, la technologie, une prothèse peut être adaptée au style de vie d'une personne, même voire à sa personnalité?
Oui, tout à fait. Maintenant, les prothèses... il y a tellement de composantes différentes versus là, 50 ans, quand les prothèses, c'était beaucoup plus basique, je dirais. Mais les prothèses, ça évolue beaucoup avec les guerres, hein, malheureusement. Donc, plus il y a de guerres, plus les composantes sont sophistiquées, la technologie avance. Donc, les composantes intègrent plus de technologie. Donc, les prothèses sont plus adéquates maintenant, plus centrées sur les besoins du patient.
Avant, on avait des pieds en bois. Maintenant, nos patients ont des pieds avec des retours d'énergie, donc ils sont capables de les propulser. Il y a certaines prothèses qui ont des composantes bioniques.
Microprocesseurs.
Donc, ils sont de plus en plus faciles à mettre. Et de plus en plus, ils ont des matériaux qui abîment moins la peau des patients, plus confortables aussi.
Donc, si un patient vous arrive et dit « moi, je jouais au hockey avant », est-ce que ça sera possible un jour de rejouer, de chausser mes patins? Bon, c'est du cas par cas, je sais bien, mais avec les prothèses, ça pourrait être possible?
Ça pourrait tout à fait être possible, pour que ce soit pour des jambes ou des bras. Les patients, ça dépend de leur condition physique, ça dépend de leur volonté, mais... La plupart des patients qui étaient déjà en forme avant retrouvent leurs activités par la suite, là. Ou des fois, ils s'en découvrent même des nouvelles.
Oui. Puis l'objectif de la réadaptation, c'est de les ramener là où ils étaient. C'est sûr que si j'ai une personne de 75 ans qui n'a pas joué au hockey depuis 30 ans, il veut se remettre à jouer au hockey, ça peut être un peu périlleux. Donc, on ne fait pas de promesses, mais par contre, si c'est quelqu'un de 25-30 ans qui jouait au hockey la semaine avant l'amputation ou le mois avant et qui veut reprendre cette activité-là, oui, certainement qu'il va pouvoir le reprendre.
Mm-hmm. Comment ça se passe, Daniel, justement, la réadaptation? Je reviens au deuil, à l'acceptation, quand vous les recevez après l'intervention, vous abordez ça de quelle façon?
En fait, ils sont suivis en réadaptation en équipe interdisciplinaire, fait qu'ils sont loin d'être toutes seules. Il y a des médecins, des infirmières, des ergothérapeutes, physios, psychologues, travailleurs sociaux, donc sont une grande équipe autour d'eux pour les aider à passer à travers ce deuil-là. On a la chance aussi, chance, une drôle de façon, mais qu'ils soient plusieurs dans la même condition, sur le même étage. Mm-hmm. Fait qu'ils les voient, les personnes amputées qui étaient là avant eux, ils les voient évoluer, où ils en sont rendus. Ah, ben c'est là que je vais pouvoir me rendre aussi, c'est ça qui m'attend. Ils s'en parlent entre eux autres. Donc, de cette cohorte-là d'amputés, de ce partage-là, et c'est très, très, très enrichissant.
C'est souvent une demande des patients quand ils viennent, des fois juste en externe, nous consulter. Ils demandent de rencontrer des anciens patients. Ils veulent voir où je peux être rendue dans 5 ans, dans 10 ans. Je vais-tu pouvoir avoir une famille? Je vais-tu pouvoir faire tel sport? C'est souvent une demande des patients aussi de rencontrer des anciens patients. Mais des anciens patients, des patients actuels, mais des patients qui ont passé par là, disons.
C'est ça. Puis il existe d'ailleurs un organisme qui s'appelle le parrainage par les pairs. C'est qu'on les met en contact avec des gens qui ont sensiblement la même amputation, qui ont sensiblement le même âge, si sont un père de famille rencontre un autre père de famille, etc., pour voir ce par quoi ils sont passés. C'est des gens qui sont formés, qui sont vus par des psychologues pour voir est-ce qu'ils ont les capacités à être à l'écoute d'une nouvelle personne amputée. Et à ce moment-là, on les met en contact et c'est beaucoup plus facilitant. Entre eux, ils se comprennent, ils ont vécu la même chose.
Et de pouvoir observer que la vie continue.
Absolument.
C'est précieux.
Oui.
José, je ne sais pas si vous avez parfois comme patient des enfants, mais je suis un petit peu curieuse parce que, et là, je vous vois rire, parce qu'ils sont en pleine croissance, donc ils grandissent, ils grossissent, bien sûr, c'est inévitable. Donc, j'imagine que la prothèse doit être adaptée à ces changements-là.
Oui, à l'Institut, on n'a pas de patients enfants parce que nous, on les voit, en fait, il y a un centre identique à nous qui s'appelle Marie-Enfant qui les traite jusqu'à 18 ans. Nous, on les voit par la suite. Mais oui, les prothèses sont pensées évolutives, je dirais. Souvent, on fait des couches de coussinets qui vont faire que plus le patient va grandir, on va enlever des coussinets, puis la prothèse va pouvoir le suivre. Mais c'est sûr qu'il faut recommencer plus souvent pour un enfant.
Oui,
prothèse, oui, assurément.
On fait comment pour assurer une autonomie, la plus grande des autonomies pour quelqu'un qui vit avec une prothèse?
En fait, quand ils sont en réadaptation, ils sont rencontrés, puis on fait ce qu'on appelle un plan d'intervention individuel. Donc, on leur demande, vous, c'est quoi vos attentes? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Je veux retourner faire de la natation, je veux retourner travailler sur ma ferme, je veux retourner reprendre mon rôle de maman, etc. Donc, on part de leur objectif à eux et on construit notre réadaptation autour de ça. Donc, nous, ce qu'on vit, c'est vraiment l'autonomie dans ce qu'ils désirent, eux, atteindre.
Et j'imagine que ça prend de la patience, tout ça?
Oui, de la part des clients, mais de tous, je dirais, mais parce que ça prend du temps. C'est sûr qu'il faut s'adapter. Une réadaptation intensive, ils sont 2 semaines à l'hôpital après la chirurgie, 1 à 2 semaines. On peut penser 2 mois au centre de réadaptation et après, ils peuvent retourner dans un centre pour réintégration socio-professionnelle, retrouver les sports qu'ils faisaient, retrouver le travail qu'ils faisaient. Donc, c'est un centre, une phase 3 qu'on appelle. Mais tout cet ensemble-là de ces 3 phases se fait généralement en 18 mois.
OK.
Donc, il faut être patient parce que c'est long. On ne peut pas accélérer les choses. En voulant les accélérer, souvent, on va blesser. Donc, on va retarder. Il faut faire une étape à la fois.
Et il faut s'adapter aussi au port d'une prothèse.
Exactement. La prothèse, ce n'est pas miraculeux. Là, on ne peut pas mettre ça la première journée, 18 heures, on s'en va travailler. Il faut vraiment prendre le temps. C'est comme un peu une nouvelle paire de chaussures. Ben là, oui.
Ça fait mal peut-être même au départ.
Tout à fait. Il y a des douleurs qui sortent, des inconforts, des frictions. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut gérer au début, à la demi-heure, à l'heure. Après ça, bon, des demi-journées. Donc, on a beau dire aux patients, même si vous voudriez rester une semaine au lieu de 2 mois, on peut pas porter la prothèse pendant 8 heures. Là. Donc, oui, il faut prendre le temps, sinon on le fait pas bien. Puis,
Est-ce que ça arrive, Josée, qu'un patient vous dit... elle me blesse, ça fait 2 mois je la porte, est-ce qu'on peut s'ajuster?
Bien, on s'ajuste. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi les patients sont hospitalisés pendant 2 mois chez nous. On les voit presque quotidiennement pour des ajustements. Pardon, suite à des traitements en physiothérapie, ergothérapie, il y a toujours quelque chose qui sort, une douleur, une friction. Donc, il faut corriger au fur et à mesure.
Est-ce que c'est cher, une prothèse?
C'est cher, une prothèse. C'est très variable. Hein. Ça varie évidemment de la hauteur d'amputation, du type des composantes qu'on va y mettre. Ça peut varier entre 1 000 puis 100 000 l'écart est très, très grand. Ça dépend vraiment des composantes qu'on va y intégrer.
Bien sûr, si l'on considère qu'après, on pourra retourner au boulot, vaquer à nos activités quotidiennes, bien, ça pèse fort dans la balance. En même temps, est-ce que c'est couvert? Est-ce qu'on peut aller chercher des sous?
En fait, tous les patients qui ont une carte d'assurance maladie sont couverts par l'assurance maladie pour une prothèse. C'est sûr qu'il y a des barèmes auprès de l'assurance maladie. Quand on veut sortir un peu des barèmes, il faut faire des demandes spéciales. Par contre, les gens qui ont eu des accidents de la route ou des accidents de travail, eux, sont couverts par la CSST ou la SAAQ. Mais il y a aussi d'autres organismes, les amputés de guerre, les assurances personnelles. Mais de façon générale, je dirais que c'est l'assurance maladie qui défraie les coûts des prothèses.
Mm-hmm. Et ça peut changer une vie, bien sûr.
Oh, tout à fait.
Oui. Bien, mesdames, ça a été un grand, grand plaisir de vous parler, de vous recevoir aujourd'hui. Danielle Petitclerc, vous êtes physiothérapeute. Josée Dubois, prothésiste à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal. Merci beaucoup de nous avoir informés sur le sujet aujourd'hui. www.irglm.qc.ca pour plus de détails. Et ça doit être assez chouette d'être dans votre équipe.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial, canal, _M.
Docteur Nancy Robitaille, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes hématologue au CHU Sainte-Justine et là pour nous parler de l'anémie falciforme qui, je le disais en introduction, est la maladie génétique la plus répandue dans le monde. 50 millions de personnes sont touchées et les cas, même ici au Québec, semblent augmenter. Pourquoi c'est si fréquent?
C'est une maladie qu'on retrouve principalement chez les personnes de race noire ou qui sont originaires du bassin de la Méditerranée, certaines régions, entre autres, du Moyen-Orient, de l'Inde. Et c'est parce que le fait d'être porteur de la maladie, c'est-à-dire qu'on l'a pas, mais on porte un des deux gènes avec la mutation, fait qu'on est protégé partiellement contre la malaria. Donc, il y a eu un effet de sélection naturelle et c'est pour ça que c'est si répandu chez ces populations-là. Et avec les phénomènes migratoires, bien, maintenant, on en retrouve un peu partout à travers le monde.
Donc, si je comprends bien, c'est une maladie qui avait sa raison d'être, qui était protectrice à quelque part.
Oui, bien, à vrai dire, il faut bien faire la différence entre avoir la maladie, c'est-à-dire qu'on a reçu un gène du père et un gène de la mère qui ont la mutation pour la anémie falciforme. Donc, on va avoir des complications de cette maladie-là versus être porteur ou avoir le trait. C'est-à-dire qu'on a un gène sur deux qui a la mutation. Et ça, on est tout à fait asymptomatique. On n'est pas malade, mais on peut transmettre la maladie à nos enfants. Donc, c'est le fait d'être porteur qui offrait une protection, disons, relative contre la malaria et qui fait que c'est devenu si prépondérant.
Mm-hmm. Justement, quels sont les symptômes de l'anémie falciforme?
Les symptômes sont très, très variables parce que ça peut toucher différents systèmes et les manifestations cliniques vont changer selon l'âge. Quand on est chez les jeunes enfants, ce qu'on va voir, c'est principalement des crises qui peuvent être très douloureuses au niveau des mains, des pieds. Il se fait des petits blocages au niveau des vaisseaux sanguins et c'est très douloureux. Chez l'enfant ou l'adulte plus vieux, ce sera plus tant les mains, les pieds, mais ça peut être à peu près n'importe quel du corps ou au ventre. Une des grandes préoccupations qu'on a aussi par rapport à cette maladie-là, c'est qu'on est plus susceptible de faire des infections contre des bactéries qui peuvent être mortelles. Donc, dès qu'un enfant ou un adulte fait de la fièvre et qu'il a l'anémie falciforme, il doit se présenter immédiatement auprès d'un médecin pour qu'il y ait une évaluation complète et qu'on commence une antibiothérapie intraveineuse pour prévenir ces infections-là.
Mm-hmm.
Donc, ça, c'est probablement les manifestations qu'on voit le plus fréquemment, les crises de douleur et la susceptibilité aux infections, mais c'est la cause numéro un d'accident vasculaire cérébral chez l'enfant. Ça peut donner des problèmes au niveau des yeux, donc des rétinopathies, un peu comme on voit chez les diabétiques. Ça peut causer des problèmes au niveau des poumons, soit des pneumonies ou des hypertensions pulmonaires. Plus chez l'adulte, on peut avoir aussi des problèmes d'insuffisance rénale. Il y a certaines personnes qui vont avoir besoin de dialyse. Donc, c'est une maladie qui a plusieurs facettes.
Et, bon, vous travaillez au CHU Sainte-Justine, donc on comprend aisément les enfants. Est-ce que ça touche que les enfants, l'anémie falciforme?
Non, ben c'est une maladie qui est génétique, hein, qui est transmise, comme je disais tout à l'heure, par les parents. Donc, on naît avec cette maladie-là et on va l'avoir toute notre vie. Un peu comme quelqu'un qui a une fibrose kystique. On naît avec la fibrose kystique et on va l'avoir toute notre vie. Et on va développer différentes complications avec le temps. C'est sûr que c'est pas toujours le diagnostic n'est pas toujours fait à la naissance. Parfois, il y en a qui vont être diagnostiqués dès le très jeune âge. Parfois un peu plus tard. Heureusement, au Québec, on a commencé à avoir un dépistage néonatal chez les nouveau-nés, qui n'est pas encore à travers toute la province, donc on espère que d'ici la fin de 2015, tous les nouveau-nés au Québec vont pouvoir bénéficier du dépistage et donc se voir offrir des soins le plus rapidement possible pour éviter les complications.
Oui, et j'imagine que l'on détecte la maladie chez l'enfant quand il y a apparence de symptômes.
Oui, ben traditionnellement, c'était comme ça. C'est souvent l'enfant qui se présentait, par exemple, pour de la fièvre ou une crise de douleur. Et encore là, fallait-il que le médecin pense de faire le test pour voir si l'enfant était atteint ou pas. Maintenant, avec le nouveau programme de dépistage qu'on fait, pour ceux qui ont déjà été parents, on pique nos enfants souvent sur le talon pour voir s'ils ont des maladies comme l'hypothyroïdie ou la phénylcétonurie. Maintenant, on va faire le dépistage aussi pour l'anémie falciforme. Donc, l'enfant n'aura pas présenté aucun symptôme. Et à ce moment-là, le programme de dépistage néonatal sanguin du Québec va communiquer avec la famille pour les référer à un centre désigné pour la prise en charge.
Docteur Robitaille, est-ce que des adultes qui entendent présentement l'émission et qui se disent « ben moi, j'ai peut-être un risque d'être porteur » pourraient faire ce test-là?
Oui, bien, à vrai dire, c'est un test qui est facilement disponible auprès de n'importe quel médecin.
Okay.
Donc, il faut juste que le médecin achemine le tube, mais c'est pas un test qui est extrêmement spécialisé. Donc, je pense qu'effectivement, si on croit qu'on est à risque d'être porteur, surtout en raison de notre origine ethnique, ça vaut la peine qu'on soit testé et que notre conjoint aussi, pour qu'on puisse prendre les décisions qui sont plus appropriées à notre choix de vie de famille avec notre conjoint.
Est-ce une maladie mortelle?
Ça diminue grandement l'espérance de vie. Donc, je veux dire, d'un côté, pédiatrie, je dirais que c'est extrêmement rare qu'on voit des décès associés à cette condition-là, mais l'espérance de vie, je vous dirais, est diminuée d'à peu près 20-25 ans par rapport à la population générale.
Et il n'existe pas de traitement. Est-ce qu'on peut amenuiser la douleur, par exemple?
On a certains traitements qu'on utilise de manière, je dirais, un peu préventive pour diminuer, entre autres, les crises de douleur ou les risques de pneumonie qu'on utilise régulièrement. C'est un médicament qui s'appelle l'hydroxyurée. Pour prévenir les infections, bien, les jeunes enfants vont recevoir des antibiotiques en petite dose, en prophylaxie. On va élargir aussi le calendrier vaccinal. Il y a des nouvelles molécules qui, présentement, sont en phase de recherche. Pour certains patients, les traitements pour prévenir les complications vont être des programmes de transfusion chronique, c'est-à-dire de manière régulière au mois environ. Et pour certains patients qui ont des formes plus sévères de la maladie et qui ont des donneurs dans la famille, on peut offrir des transplantations de cellules souches hématopoïétiques, donc une greffe de moelle osseuse pour guérir la maladie. Mais c'est le seul traitement, la transplantation, qui permet de guérir la maladie.
Et qui est plus délicate, là, bien sûr, comme intervention.
Oui.
Oui. Vous parliez, Dr Robitaille, de transfusion. Je vous amène au don de sang. Est-ce que vous en avez suffisamment? Comment ça se passe là? Parce que, évidemment, j'imagine que ça prend des dons de sang de personnes de personnes noires.
Non, pas nécessairement. Okay. À vrai dire, on a une très bonne collaboration de la part d'Héma Québec et habituellement, on est capable de répondre à la majorité des besoins de nos patients avec anémie falciforme. Par contre, les groupes sanguins chez les personnes de race noire sont un peu différents des personnes de race blanche. Okay. Et parfois, on a besoin de sang que j'appellerais plus rare, avec des groupes sanguins plus particuliers. Et là, c'est souvent des donneurs de la communauté noire qui vont être notre meilleure chance pour trouver un donneur compatible. Et on sait que les personnes, pour des raisons un peu historiques, de race noire, donnent moins sur les collègues. Donc, je pense qu'il faut inviter ces personnes-là à venir faire des dons de sang chez Héma Québec.
Dr Nancy Robitaille, vous êtes hématologue au CHU Sainte-Justine. Vous nous avez éclairé aujourd'hui sur l'anémie falciforme qui est encore très peu connue ici au Québec et au Canada. Merci beaucoup de cette conversation.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, c'était Marianne Paquette à l'animation. Ben, nous, on sera présents, même heure, même poste demain. D'ici là, vous pouvez nous réécouter, nous écouter en rediffusion à 17h ou encore nous suivre sur les différents médias sociaux. On est sur Facebook et Twitter, et au www.canalm.org. Eh bien, portez-vous bien, profitez de la neige, ça tombe abondamment et c'est très, très joli. Bye-bye!